c'est le fait de rentrer dans un univers qu'on a dans la tête et le fait d'en explorer toutes les potentialités qui sont par définition infinies. Bien sûr, tout est inspiré de ce que l'on vit, ça c'est une évidence totale, mais il y a une liberté de recréation de ce, justement de ce que la vie vous apporte qui est fantastique, je trouve.
Perchissime, le magazine audio du Perche. Je suis Amélie Dagg et je vous souhaite la bienvenue. Pourquoi écrire ? Comment devient-on écrivain ? Pourquoi choisir d'écrire un livre dont l'action se déroule dans le Perche ? C'est avec ces questions en tête que je suis arrivée chez Claire Veillère à Saint-Victor-de-Buton pour mener l'interview que vous allez entendre. Claire est, entre autres, écrivain. C'est avant tout une femme aux multiples passions, dont la vie s'écoute comme on lit un roman. Avec générosité, elle en a partagé avec moi quelques chapitres que je suis heureuse de vous offrir. Bonne écoute! Bonjour Claire.
Bonjour.
Est-ce que vous voulez bien me dire qui vous êtes, vous présenter avec vos mots à vous? Qu'est-ce que vous diriez?
Ah oui, c'est une bonne question qu'on ne se pose jamais. Peut-être le bon résumé, ce serait je suis passionnée de littérature, passionnée de cheval et passionnée de musique. Alors, je ne sais pas si ça permet de définir une personnalité, mais sans doute, ça permet au moins de la cerner un peu.
En tout cas, ça ouvre plein de champs de discussion pour notre conversation. Votre histoire avec le Perche,
elle date d'il y a 20 ans. Et c'est en fait, au milieu de ma vie professionnelle. Je suis en fin de carrière. Je vais être à la retraite très bientôt, ce qui me réjouit grandement. C'était au milieu de ma carrière. En fait, depuis longtemps, j'avais envie de travailler dans le domaine de l'agriculture. Ça m'attirait beaucoup. Et depuis que je suis petite, le cheval me passionne. J'ai passé mon temps à Paris à écumer les bibliothèques pour lire tous les petits ouvrages. Vous savez, les collections vertes, les étalons noirs, les chevals sauvages, les flammes et autres chevaux. Donc ça, j'avais très envie de rejoindre ce milieu-là. Et en même temps, j'avais une première formation qui était aussi une passion. Je travaillais donc dans le domaine des relations internationales sur le partenariat euro-arabe. Et du coup, c'était tellement loin de l'agriculture que je ne voyais pas très bien comment rejoindre l'agriculture. Et puis, un des aspects pour rejoindre l'agriculture, c'était effectivement s'installer à la campagne, parce que même si je n'y travaillais pas, ça me permettait de me rapprocher un peu de la terre, tout simplement. Il y avait ça d'une part. Et donc, du coup, ça a été notre premier pas avec mon mari, qui lui était peintre, artiste peintre. Donc, c'était assez facile de déménager ou de s'installer ailleurs, de trouver un atelier ailleurs, etc. Il n'était pas lié à un employeur en particulier. Et c'est lui qui a eu l'idée de tracer autour de Paris un cercle avec un compas en se disant « Je ne vais pas plus loin que là et je vais à un endroit où il y a de la vraie nature, de la vraie campagne et une vraie terre qui vit. » Voilà. Et en traçant ce cercle, nous sommes tombés sur le Perche parce que il y a plein de pseudo-campagnes pas très loin de Paris, mais elles ne vivent pas comme vit la campagne percheronne de sa vraie vie de campagne. Voilà. Donc nous avons cherché dans le Perche, il y a 20 ans, nous avons trouvé, moi je travaillais encore au Parlement européen, donc sur les questions euro-arabes à cette époque, à partir du moment où nous avons été installés ici, petit à petit j'ai cherché à me rapprocher à trouver un emploi qui me permettait de rester ici, de rester dans le Perche. J'avais plus du tout envie de repartir, après chaque week-end c'était terrible, j'avais qu'une envie, c'était de passer encore une nuit et de me réveiller encore un matin avec la possibilité de sortir dans les prés, d'aller dans les chemins, voilà, ça, je trouvais ça absolument fantastique. Même quand il pleut, parce que la première année il a plu sans arrêt, un peu comme cette année.
Un peu comme depuis 2 ans.
Donc, Et du coup, après, j'ai passé des concours pour revenir dans la fonction publique française. Et le seul poste qui s'est ouvert au moment où je cherchais vraiment à travailler ici, c'était la gestion du collège Pierre Brossolette à Nogent-le-Rotrou. Donc, j'ai géré un collège que je n'avais jamais fait de ma vie, mais c'était tout à fait passionnant. Et on a fait plein de choses, notamment j'ai monté des sections sportives, et notamment une section équitation. Je me suis mise à monter à cheval. Et bref, j'ai réalisé toutes sortes de rêves. Voilà. Et puis après, j'ai quitté le collège et je suis restée 5 ans quand même dans la gestion de ce collège, ou 4 ans. Et puis ensuite, j'ai intégré le ministère de l'Agriculture. Donc j'ai fini par pouvoir me rapprocher de l'agriculture.
Bravo.
Et y parvenir, tout en venant des affaires étrangères qui n'avaient aucun rapport.
On peut parler du cheval un peu, parce que je sens que ça va revenir sur moi. Ah oui, donc ça vient de toute petite, vous disiez.
Oui, voilà. Par contre, je m'y suis mis très tard. Mais c'est vraiment, ça fait partie des sports auxquels on peut se mettre extrêmement tard. Je m'y suis mis à 40 ans, ce qui est pas forcément évident. Mais en fait, j'avais la chance de ne pas avoir peur, ce qui limite quand même beaucoup de choses, ce qui permet beaucoup de choses. C'est pas tellement... c'est la peur qui limite vraiment beaucoup de choses. Mais donc ça permet beaucoup de choses. Et puis j'ai beaucoup monté très vite. Et puis du coup j'ai passé mes galops. Et puis j'ai fait un peu de compétition. Et puis,
ah oui.
Et puis ça me plaisait énormément. Okay. Et la relation à l'animal, c'est vrai que c'est très particulier. C'est un sport qu'on fait vraiment à deux. C'est-à-dire il y a autant de la formation du cheval comme sportif que du cavalier. Et tout me plaisait, c'est-à-dire aussi bien la partie sportive que la partie loisir, partir en extérieur, faire des longues balades, voilà. Et ça reste quelque chose qui me passionne. Et donc, du coup, dans le cadre de mon travail, j'ai cherché aussi à me rapprocher du cheval.
Et oh ben là,
j'ai postulé, j'ai postulé à l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui regroupe donc les anciens haras nationaux et le cadre noir et l'École nationale d'équitation de Saumur. Et puis, là, j'ai monté un observatoire de l'emploi, parce que la filière n'avait pas d'observatoire de l'emploi à l'époque, de l'emploi et des formations. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur les relations internationales, dans les relations cheval, strictement, enfin, équine. Et puis là, je suis actuellement à nouveau sur les questions de formation et d'emploi pour cette filière. Et quand je dis cette filière, on a l'impression de l'extérieur, on pense, ou plutôt tous les amateurs pensent à la partie loisirs et sport équestre. Mais il y a une dimension course qui est extrêmement importante et qui est extrêmement importante aussi sur le plan économique. Donc le trot et le galop, et c'est une dimension absolument passionnante, y compris en termes d'élevage. C'est encore tout à fait autre chose. Et c'est une dimension dans laquelle la France excelle. Donc ça aussi, c'était quelque chose d'intéressant de travailler pour une filière d'excellence, en quelque sorte. Et puis il y a la filière cheval de travail, qui aussi est tout à fait autre chose, avec la France a gardé 9 races de trait, donc ça c'est c'est le seul pays. Je pense que c'est le pays, j'ai pu le constater en travaillant sur les relations internationales, c'est le pays en Europe et dans le monde, je pense, dont la filière équine est la plus complète, avec un segment sport-loisir, un segment course complet et un segment cheval de travail. Mmh. Et bien sûr, à la base de tout ça, les segments élevage qui correspondent.
D'accord. Donc 20 ans dans le Perche, que vous avez, je comprends bien, bien parcouru de haut en bas, de droite à gauche. Qu'est-ce que vous aimez ici ?
Alors oui, j'aime le fait que ce soit une vraie campagne qui vit avec ses problématiques d'élevage, etc., qui sont les siennes. Et c'est toujours intéressant de voir un milieu... Enfin, moi, je trouve que je suis toujours intéressée par un milieu économique qui fonctionne vraiment et qui vit comme ça. En même temps, elle est pas loin de la ville, donc elle est irriguée par toutes sortes de réalités humaines diverses, ce qui n'est pas toujours évidemment facile, j'imagine, surtout pour les agriculteurs qui eux en sont originaires, j'imagine. En même temps, ça produit des choses tout à fait intéressantes et je trouve que ça en fait un territoire très attachant. Après, j'aime ces collines, oui. Sa nature, je la trouve très belle, je la trouve... je préférais qu'il pleuve un peu moins cette année, mais c'est quand même c'est très attachant. J'aime beaucoup que ce soit un territoire d'élevage, donc une terre qui est pas géniale pour les grandes cultures, même si on est tout près de la Beauce, on est tout près. Mais en tout cas, les collines du Perche, c'est une terre d'élevage. Et oui, ça j'aime beaucoup avoir des animaux. J'ai tout le temps des animaux autour de la maison et ça me plaît beaucoup.
Si je vous dis Perche, quelle image vous vient là ? Vous pensez à quoi ?
Aux collines, aux herbages, aux arbres, qui sont magnifiques. Et puis à quelques beaux percherons.
Est-ce qu'il y a un son particulier de cette région ? Quelque chose qui vous fait penser aux Perches ?
Alors évidemment les oiseaux, les coqs. Parce qu'on en entend jusque dans la loupe. Et du coup, ça me rappelle les miens.
D'accord.
Voilà. Mm-hmm. Et puis cette année, quand il pleut comme ça beaucoup, on entend, dès qu'on se promène, on entend tous les lieux de petits ruisseaux qui ne sont pas forcément visibles, mais ou des petits écoulements, ou etc. Et ça, c'est très aussi, je trouve ça très sympathique.
Ok. Une odeur caractéristique.
Une odeur. La terre mouillée. Surtout cette année, voilà.
Très bien.
Voilà. Autrement, le bois pourrissant.
Très bien. Un goût.
Un goût
caractéristique.
La pomme.
Bien sûr.
Oui. Surtout que là, juste en face, il y a de l'autre côté de la colline.
Ouais.
Il y a un verger qui fait des pommes magnifiques. Et chez qui on va tous les samedis matins, il est là. Et il vend ses pommes.
Très bien.
C'est génial.
Alors, peut-être plus dur, mais je ne suis sûre pas pour vous, un toucher.
Un toucher. Qu'est-ce qui... Le Perche. Alors, ouais, deux choses, je pense. Le poil des chevaux. Voilà. Et puis les arbres.
Ouais.
Il y a de très, très beaux chênes. Et mon mari était un peu spécialisé dans sa peinture en arbres. C'était un peu ça, voilà. C'était ce qu'il faisait le mieux. Et du coup, ça m'a sensibilisée aux arbres.
Vous avez commencé par parler de littérature. Vous avez dit que vous étiez passionnée de littérature. Comment ça a commencé, tout ça ? Comment les livres sont arrivés dans votre vie ?
Mais j'en ai pas le souvenir, donc j'imagine que c'est dès que j'ai su lire, j'imagine. Ça me plaisait beaucoup. Je me revois lors de l'apprentissage de la lecture, très contente que ma mère me demande de lui montrer comment je lisais bien. Voilà. Et dans la cuisine, lui lire. Alors, je me souviens des albums du Père Castor. Je pense que ça date vraiment. Et ça, j'adorais ça. Et notamment, il y avait des histoires de canards, je crois. Enfin, bon, voilà.
Déjà.
Des animaux. Voilà. Ça me plaisait beaucoup.
D'accord.
Et puis après, sur cette lancée-là, j'étais en bibliothèque. Et là, puis alors, les livres de chevaux, je trouvais ça génial. Les courses, tout ça, ça me plaisait bien. Ce qui n'était pas la mode, mais ça me plaisait, moi.
C'est marrant d'être tombée là-dedans alors que vous n'étiez pas entourée de chevaux en France.
Non,
si
et ce n'était pas du tout dans la famille. Je ne sais pas, je pense que c'est vraiment les livres. Hein.
D'accord.
Donc, il y a vraiment quelque chose. Où le... Et en plus, la course, c'était la course qui me plaisait.
Ah oui.
Alors que c'est... D'ailleurs, toujours aujourd'hui, c'est pas... Mais c'est pas la mode, quoi. Enfin, alors que moi, je trouve ça génial. Surtout que le cheval, spontanément... Ça, bon, c'est un animal de fuite, mais il y a une espèce d'excitation et de bonheur quand il court, quoi. Donc c'est pas du tout complètement, c'est ni une torture ni contre nature que de les faire courir. C'est beaucoup moins contre nature que de faire autre chose, que de les faire aller lentement. Lentement, c'est un vrai travail de sportif. Mais par contre, aller vite, il y a aucun. Et ça, je trouvais ça génial dans les bouquins, j'adorais. Et si j'avais pu, par contre, ça parlait pas du tout à ma famille, mais si j'avais pu faire une école de course et puis faire un apprentissage de jockey, je le vis, je le, Je le concrétisais pas parce que je connaissais pas du tout et j'en voyais jamais. C'était vraiment très très loin. Mais en y repensant, et une fois j'avais essayé d'en parler à mon père, et c'était, c'était vraiment pas ça, quoi. Mais en y repensant, je pense que si j'avais été en contact ou par ma famille ou quoi avec ça, je suis quasiment sûre que j'aurais fait une école des courses.
Ah ouais.
Et puis je serais montée à fond de train. Non, c'est grisant.
C'est ça que vous aimez à cheval, c'est la vitesse.
Ouais, en tout cas, ça joue. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est assez. Je sais pas. Il y a vraiment un effet de griserie, le fait d'être. D'abord, vous faites confiance à l'animal. C'est pas du tout comme une voiture ou quoi. Hein. C'est franchement, c'est un partenaire. Hein. Donc, si jamais il a envie de stopper d'un coup, et ben voilà, vous valsez parce qu'il y a une rapidité de réflexe qui est absolument hallucinante à cheval. Mais du coup, vous faites confiance à votre relation à lui pour lui parler au moment, pour l'aider, pas, je sais pas, pour l'encourager à ralentir. Déjà, c'est pas la peine de tirer. En force, on est perdant. On est perdant. Il y a 500 kilos qui s'exercent. On est complètement perdant. Puis on n'a aucun poids. En fait, on est dessus, c'est tout. Ouais. Donc on n'a rien. On n'a aucun point d'appui contre lui. Donc il faut aller avec et il faut tisser une relation qui permette que le cheval soit attentif à ce que vous voulez, vous. Et quand, c'est ça qui est passionnant. C'est absolument passionnant parce que vous avez un animal 10 fois plus puissant et surtout 10 fois plus rapide. C'est surtout la rapidité qui est complètement... il m'est arrivé des trucs extraordinaires en balade, par exemple. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à bien monter, parce que si vous montez bien... Vous savez que vous tenez dans des contextes un peu agités, peu agités. Mais je me souviens une fois dans un chemin creux, il y a des chevreuils qui sont passés au-dessus de nous, donc juste au-dessus de l'encolure du cheval, parce on était à la hauteur. Ils sont passés d'un bord à l'autre, ils ont sauté et pouf. Et là, vous êtes devant, vous voyez, le cheval le voit aussi. Alors le cheval, il a fait demi-tour immédiatement. Mais alors, vous n'avez pas le temps, il faut simplement rester dessus, c'est tout. Et puis il est parti au triple galop, parce que ça l'effrayait quand même. Mais moi, je les ai vus passer au début, c'était magnifique. J'aurais pu, en tendant le bras, je les touchais, quoi. Deux chevreuils, pouf. Voilà, bon, ben ça, je trouve ça, oui.
Bien sûr, bien sûr. Donc les livres ne vous ont jamais quitté. Vous les avez rencontrés jeunes, ça vous a amené au cheval. C'est marrant comme vos passions seront liées, en fait.
C'est ça, mais c'est comme vous.
Voilà, c'est ça, c'est tout a une cohérence.
Et puis mes parents, alors comme c'était beaucoup, ça se faisait, c'était très à la mode dans les années 70, mes parents ont quitté Paris avec des amis pour monter une communauté. Ils souhaitaient trouver la troisième voie entre le capitalisme et le socialisme, j'imagine, quelque chose comme ça dans leur idée. Enfin bref, moi ça me plaisait énormément parce qu'on vivait à la campagne, puis tout s'est arrêté, le reste, l'école, tout ça. Et là par contre, les livres sont restés. D'accord. Parce que tous les adultes avaient amené leurs livres, et donc il y avait une bibliothèque. Ils avaient acheté, en vendant leur maison à Paris, ils avaient acheté un domaine avec un château dans lequel il n'y avait rien, enfin, il n'y avait pas l'eau courante, dans le centre de la France, dans l'Allier. Et du coup, tout l'effort des adultes au début, ça a été de rendre l'espace habitable, et puis ensuite de monter lentement une école. Ils étaient censés nous faire classe, mais il n'y avait qu'un seul enfant par classe d'âge au début, ce qui fait qu'on ne faisait pas classe, mais moi je trouvais ça sublime, tout s'arrête. Et puis il y avait des animaux très vite, parce qu'il y avait des agriculteurs qui nous ont rejoints. Moi je m'occupais d'un troupeau de chèvres, je faisais les fromages pour la communauté, je trouvais ça magnifique.
Vous êtes resté combien de temps là-bas?
Jusqu'à mes 18 ans.
Ah ouais?
Donc, ouais. Et là, les livres sont restés. Donc il y avait cette bibliothèque. Et en même temps, c'est très curieux par rapport à la famille, ce qui s'exerce sur les enfants n'est pas du tout la même chose. Dans la communauté, ce que j'ai remarqué, c'est que d'une certaine façon, plus personne ne nous surveillait, et en même temps, chacun supposait qu'un autre adulte avait vu les enfants ou quelque chose comme ça. Donc, on avait une impression très forte de sécurité absolue. En plus, on pouvait s'adresser à n'importe qui. Il y avait un problème, c'était, bon, ça tombait, on était à tel endroit, c'était un tel qui faisait je sais pas quoi, et puis on s'adressait à lui, voilà. Donc, en même temps, un très fort sentiment de sécurité, et de liberté absolue. Parce qu'il y avait quasiment plus personne ne s'occupait de savoir où on était. Moi, je pouvais passer des journées entières avec mes chèvres. Il y avait un âne aussi à me balader dans les chemins. Hein. Personne ne s'occupait de savoir si j'étais rentrée, pas rentrée. Enfin, voilà quoi. Et les bouquins, du coup, on prenait n'importe quoi et on lisait. Moi, je lisais énormément, du coup. Donc ça, c'était super. Ça, c'était magnifique.
Quelle expérience, c'est hyper structurant comme expérience d'enfance, enfin d'adolescence.
Ouais, Non, c'était très agréable. Après, on paye un peu cher parce que
ils n'ont pas trouvé la troisième voie, je suppose, entre le capitalisme et le socialisme. Bon, ça se saurait.
Tous les couples ont explosé. En même temps, c'est normal. Enfin, c'est l'apprentissage de la vie, quoi. Ouais. Et puis quand l'école s'est montée et est devenue solide. Moi, j'avais 18 ans, quoi.
Ouais, ouais.
Et on se retrouve sans bac, sans livret scolaire. Donc ça, c'était la partie un peu difficile. Surtout que moi, j'avais envie de faire des études supérieures, du coup.
Mmh.
J'avais envie de... parce que j'avais lu Sartre, Simone de Beauvoir, tout ça. Et
très jeune, alors, avant 18 ans, quand même.
Oui, oui. Ouais. Oui, oui, ben oui, par la force de choses. Oui, mais du coup, ça me donnait vachement envie. Je rêvais que d'une chose, c'est d'aller en fac.
Ouais, je comprends.
Mais aussi parce qu'on n'avait pas...
C'est sûr, quand on lit les mandarins, on a envie de, on a envie de rentrer dans cet univers-là, bien sûr.
Ah ouais, c'était... Et puis c'était complètement éloigné de ce que je vivais là, puisque rien n'était orienté sur l'apprentissage, sur le travail, sur... C'était vraiment...
Alors, comment vous avez fait pour retourner dans le système scolaire, entre guillemets?
Là, j'ai mis quand même 2 ans, parce que rien que pour comprendre comment ça se passait, pour essayer de voir quelle voie je pouvais emprunter, c'était pas du tout évident. Et en fait, d'abord, je suis passée par la musique, parce que la seule chose qu'on a continué à faire de façon, entre guillemets, normale, c'était d'aller au conservatoire, le plus proche. Bon, voilà. Donc, on allait au conservatoire, j'étais en alto, là. J'ai pu finir avec le seul diplôme, entre guillemets, que j'avais, c'était un diplôme de conservatoire, de fin de cycle en conservatoire. Et puis ensuite, en me renseignant, mais donc ça, j'avais déjà quitté la campagne et j'étais à Paris, puisque les études, c'était à Paris, quoi, dans mon esprit. Et puis à l'époque, c'était nettement ça. Enfin, il y avait beaucoup moins de facs en province, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un système qui existait, un moyen de rentrer en fac pour les non-bacheliers et les gens qui n'avaient rien et qui par contre avaient une expérience un peu spéciale ou particulière. Voilà.
Vous cochiez cette case.
Voilà, je cochais cette case. Et puis qui avait un peu bossé. Ouais. Et j'avais été l'assistante de ma prof d'alto au conservatoire. Ah oui, j'avais un prix littéraire aussi, parce que j'avais un prix sur manuscrit.
Waouh.
Et donc, je fais mon dossier avec tout ça.
Ouais.
J'ai passé donc en lettres. Et puis voilà, puis je suis rentrée en fac.
Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment, de lectrice assidue, hein, si je comprends bien, vous êtes passée autrice. Comment ça a commencé?
Alors, ça a commencé dans ma communauté, là. Parce qu'effectivement,
je m'en doute.
Voilà. Alors, j'écrivais je sais plus ce que j'écrivais. Je tenais un journal, je crois. J'écrivais des petits poèmes, des petits textes. Voilà, des petites histoires, peut-être. Je les ai pas retrouvées. Ah, bah si, il y a eu celle du prix, de la Fondation Synodée de Lucas. Donc, ça, c'était une espèce de grosse nouvelle. Et
Donc, ça
après...
vous a encouragé à écrire, je suppose, à continuer, à poursuivre.
Et puis, mais en fait, on le fait surtout parce qu'on a envie.
Ouais.
Je vois pas tellement. Oui, j'imagine que ça joue ce rôle-là, mais on n'en a pas vraiment conscience. Mmh. Parce qu'après, ma priorité était tellement de faire des études et d'arriver à bosser avec, que ça a été vraiment la priorité. Et je pense que j'ai arrêté d'écrire jusqu'à ce qu'on arrive là. Par contre, c'est vrai que c'était présent dans mon envie d'aller à la campagne et de changer de vie. Et effectivement, du coup, je me suis remis à écrire sérieusement en arrivant ici.
D'accord. Donc là, vous vous êtes lancée dans quoi? Qu'est-ce qui...
Alors, au début, c'était lié à une commande d'une amie, les livres jeunesse, en fait. Voilà, parce que elle était directrice de collection chez La Martinière.
Mmh.
On s'était rencontrés, en fait, au Yémen, enfin, ça n'a rien à voir. Bon, bref, mais ça, c'est les hasards des rencontres, parce que moi, je faisais de l'arabe.
Cet épisode va faire 8 heures, je vous préviens. Il y a trop de trucs à raconter. D'accord.
Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire ces romans jeunesse. Donc, c'était sur les pays étrangers. Et j'avais travaillé sur les pays étrangers. Enfin, il y avait une... Donc, j'ai fait sur le... Bon, peu importe. Bon, bref, six romans jeunesse.
Okay.
Et puis, quand on était ici, j'ai commencé... Ben, comme je découvrais le cheval et puis que ça m'avait tellement passionnée, j'ai commencé à écrire des nouvelles sur le cheval.
D'accord.
Et ça, pour avoir un éditeur, je les ai soumises à un réseau. C'est pareil, à un prix qui n'existe plus. Et c'est tellement dommage parce que je trouve que ces prix-là permettent de lancer un auteur. Sinon, je ne vois pas comment. Mmh. Mais donc, là, c'était le prix Prométhée de la Nouvelle. Et c'est un réseau dont l'obtention du prix était la publication aux éditions du Rocher.
Et donc là, vous avez eu le prix Prométhée.
Oui. Et là, j'ai rencontré des personnes qui sont devenues mes éditeurs.
Okay.
C'était le cavalier de Cladourby.
Vous dites, c'est pour mon plaisir que j'écris. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Qu'est-ce qui vous procure du plaisir?
C'est le fait de rentrer dans un univers qu'on a dans la tête. Et le fait d'en explorer toutes les potentialités qui sont par définition infinies, évidemment, puisque c'est nous qui le créons. Mais, et puis toutes les finesses, créer les personnages qui vous fascinent. Bien sûr, tout est inspiré de ce que l'on vit, ça c'est une évidence totale. Mais il y a une liberté de recréation de ce que la vie vous apporte. Qui est fantastique, je trouve.
Et donc, comment écrivez-vous? Est-ce que vous avez un rituel? Est-ce que ça vient quand ça vient? Est-ce qu'il y a des périodes où vous n'écrivez rien du tout?
Ah oui, là j'écris depuis la mort de mon mari, je sais pas pourquoi j'écris rien. Puis j'ai pas envie. Enfin, voilà, j'écrirai à nouveau quand j'aurai envie, ça, aucun problème. Et non, j'avais pas vraiment de rituel. Je pense non, c'était en fonction de. Par contre, c'est le fait d'avoir dans la tête une histoire suffisamment construite.
Oui.
Pas du tout dans les détails, hein, parce qu'après, les chemins, justement, vous conduisent dans toutes sortes de lieux ou toutes sortes de transformations. Mais avoir une idée, quand même, générale de ce que vous allez raconter, quoi. Voilà.
D'accord.
Et puis après, avoir de la avoir de la disponibilité. Aussi bien intérieure que avoir au moins les week-ends, que le boulot ne prenne pas les week-ends, avoir des congés suffisamment longs pour pouvoir s'y plonger. Ça, c'est important d'avoir plusieurs semaines de disponibilité à la suite, quoi.
Mmh. Et c'est une satisfaction d'être publié? Parce que vous pourriez écrire pour vous.
Il y a plein de choses qui ne sont pas publiées. Mmh. Ouais. Mais oui, parce que c'est ce qui a du sens, finalement, si vous le partagez.
Ouais.
Même si c'est très curieux, parce qu'en fait, vous ne savez pas du tout. Comment dirais-je, les échanges qu'on a avec d'éventuels acteurs lors des salons, etc., ils sont totalement surprenants. Et c'est là où vous découvrez que, en fait, la lecture est une recréation aussi de l'œuvre. Et là, vous l'écoutez comme s'il vous racontait quelque chose que vous ne connaissez pas.
Ils le reçoivent différemment de ce que vous avez mis dedans.
Ils s'en servent différemment.
Ouais.
Pour eux, ça les nourrit complètement différemment. Et ça, c'est génial. Ouais. Ça, c'est très chouette.
Ouais, ça, c'est magique aussi.
Ouais, voilà, c'est magique. Mais c'est peut-être tous les arts sont comme ça. Je pense que si on regarde une peinture, si on écoute, ça vous parle d'une certaine façon qui n'est pas forcément évidemment difficile d'interviewer Mozart sur ce qu'il a voulu dire, mais c'est voilà.
J'aimerais bien qu'on parle de Révolte, que Caline Gallet de la médiathèque de la Loupe m'a fait découvrir, que moi j'ai trouvé d'une force incroyable. Et j'aimerais bien que vous me racontiez l'histoire de ce livre.
Ah oui.
Et je trouve qu'il y a une violence contenue dans ce livre.
Oui, j'ai pas été assez loin, c'est ça qui est dommage.
Ouais, c'est vrai?
Oui, je pense. Ah oui, mais j'imaginais des suites, mais que j'écrirais peut-être. Non, je trouve... Alors, c'est parti de ce que je ressens de la situation... des agriculteurs en général, la situation qui leur est faite, et d'ailleurs qu'on voit très bien parce que ça surgit régulièrement, voilà. Et puis en même temps de l'amour du perche que j'avais et de cette nature.
Des
et puis le mélange,
aussi,
voilà, des chevaux ouais. aussi, mmh. voilà. Et le mélange entre tout ça m'a donné envie d'explorer cette. Alors on est très loin de la situation réelle, hein, j'entends bien. C'est pas du tout ça. C'est tellement romancé que on est. Mais ça partait de ce sentiment. Moi, je trouve la situation des agriculteurs assez révoltante. Enfin, je veux dire la place qui leur est. Voilà, le système économique leur fait une place telle que c'est quasiment invivable.
Ouais.
Et ouais, j'avais envie de mettre ça en lumière et puis en même temps de le mettre ici, de le faire vivre dans le Perche. Ouais, ça me plaisait beaucoup. Par contre, je pense que ce premier ouvrage est seulement, à mon sens, le début. Ça va pas assez loin, ça n'aboutit pas. Il faudrait pouvoir, parce que ça pose plein de questions. Puis après, on se dit, mais alors ça aboutirait une révolte menée au bout. C'est comment ? C'est quoi ? C'est avec quel rapport avec le politique ? Voilà, il y aurait plein de choses à poursuivre. Peut-être que je le poursuivrai une fois.
Ok, donc on attend la suite alors. Et vous, quelle lectrice êtes-vous ? Qu'est-ce que vous aimez ? Si vous avez envie de partager ça ? Et je suppose que ça a évolué au fil du temps, forcément.
Ouais.
Peut-être que vous lisez encore Sartre-Beauvoir, je ne sais pas.
Non. Non, plus du tout. Par contre, je lis tout. Je reste très, très amoureuse des classiques.
Ouais.
Les grands classiques, je dirais. Mais voilà, ouais. Tolstoï, Balzac, Flaubert... Naguib Mahfouz pour le monde arabe, Lao Tse pour la Chine. Ouais, si je suis assez passionnée par c'est peut-être plus que les grands classiques, les auteurs qui créent un univers et pas seulement. Et ça, je regrette d'ailleurs de pas être capable de le faire moi, parce que là, je relisais Tolstoï, c'est vraiment un univers, c'est-à-dire que. C'est pas du tout ou Balzac, c'est vraiment un univers. C'est pas du tout une histoire.
Ouais, ouais.
Et ça, je trouve ça fantastique. Ouais. Et mon goût va vers ça. C'est évident.
Merci beaucoup, Claire.
Merci à vous.
C'est la fin de cet épisode. Pour retrouver l'ensemble des saisons de Perchissime, rendez-vous sur perchissime.fr. Merci pour votre écoute et à bientôt. Thank you.